vous raconter l'histoire d'un questionnement philosophique, ou plutôt l'histoire d'un jeune garçon. 17 ans, en classe de terminale, et il désespère ses parents. Sérieux, tu veux pas prendre un livre de temps en temps au lieu de mater des séries toute la nuit, avachi sur ton lit? Et puis cette année, au lycée, c'est pas l'année de la philo? C'est bizarre, il n'y a pas un livre de philo dans ta chambre, même pas un manuel, rien. Et puis ta prof, t'en parles jamais, elle existe au moins celle-là? À cette question, notre jeune homme lève un sourcil. Est-ce qu'elle existe, sa prof? Plutôt marrante cette question, se dit-il en replongeant dans sa série. Alors voilà, c'est l'histoire d'un malentendu. Car la série qu'il mate sur Canal, c'est de la pure philosophie. Une femme découvre son vrai visage, découvre ce moi recouvert par le moi social. La série porte précisément sur le conflit entre le moi intime et le moi social. En plus, c'est drôle. Une femme très bourgeoise catholique, très serre-tête et collier de perles, découvre à la mort de son mari que l'entreprise qu'il dirigeait était en fait une boîte de production de films porno. Au début horrifiée, elle va reprendre la boîte de son mari par sens du devoir, pour préserver le niveau de vie de ses enfants et finir par tomber amoureuse d'un hardeur au grand cœur qui s'appelle la poutre. Derrière le comique de situation, les questions les plus philosophiques sont posées. Comment réussir à tomber le masque social? L'expérience de l'amour n'est-elle pas toujours celle d'un déplacement, d'un décentrement? N'est-ce pas précisément quand les choses ne se passent pas comme prévu que la vie s'offre à nous dans sa plus pure nudité? Toutes ces questions, il se les pose allongé sur son lit. Elles le tiennent éveillé parce que ce sont de vraies questions. La question du moi social et du moi intime, il pourrait la trouver dans les rêveries du promeneur solitaire de Rousseau ou dans Loin de moi de Clément Rosset. La question de l'amour et du décentrement, il pourrait la trouver dans le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux ou dans l'éloge de l'amour d'Alain Badiou. Mais il les trouve dans cette série sur Canal. Il les trouve dans Hard et pas qu'un peu. Elles sont là, posées, exposées, mises en scène, rendues sensibles. Et si c'était la force d'une série, peut-être plus encore que celle d'un film, de réussir à poser une vraie question de philosophie. Pour en parler ce matin, j'ai la joie de recevoir Cathy Vernet, réalisatrice et scénariste de séries, et ça tombe bien, elle a justement écrit et réalisé Hard, mais également Vernon Subutexte, adapté du roman de Virginie Despentes, des épisodes de Fais pas ci, fais pas ça, et bien d'autres choses encore. Cathy Vernet, donc, qui nous a rejoint sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter, pour nous aider à comprendre le secret de l'efficacité de séries comme The Crown, Soprano, Mad Men ou Breaking Bad, et à répondre à cette belle question. Comment ça marche, une série qui marche?
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Cathy Vernet.
Bonjour Charles Pépin.
Alors merci beaucoup de nous avoir rejoints comme ça dans cette caverne de France Inter. Donc vous avez réalisé beaucoup de séries, écrit beaucoup de séries, notamment cette série Hard que j'avais adorée à l'époque. On va entrer directement dans le vif du sujet. Comment ça se fait que les séries semblent parfois réussir à poser une question philosophique plus que les films?
Parce que c'est l'essence de la dramaturgie d'une série, de poser une question à laquelle on ne peut pas répondre. C'est ce qu'on appelle le thème dans le jargon des séries. Et la différence entre une série et un film, c'est que justement, la question qui est posée n'a pas de réponse possible. Donc on a envie de se la poser, puisqu'on ne sait pas comment y répondre. Alors qu'un film, l'auteur pose une question, essaye d'y répondre, enfin son personnage approche une réponse dans ce qu'on appelle l'acte 2. Il la pose dans l'acte 1, dans l'acte 2, il y répond, et souvent c'est faux. Et sa découverte de cet échec, de cette erreur, lui fait prendre conscience de son mauvais raisonnement, et il change.
Donc,
un dénouement. Ou alors il ne change pas, et c'est le choix de l'auteur. Ouais. Donc l'auteur pose une question, et à la fin, il donne sa réponse. Alors qu'en série, l'auteur pose une question plus existentielle, plus philosophique, puisqu'elle appelle un débat, il n'y a pas de réponse. Et donc la réponse à la fin, au bout de 5, 6, 7 saisons, si la série est bien, c'est qu'il n'y en a pas. Donc c'est l'acceptation qu'il n'y a pas de réponse.
C'est vrai que c'est carrément une école de sagesse sceptique. Je sais que je ne sais pas, je l'accepte. Pour bien comprendre cette thèse, Cathy Vernet, eh bien, je voudrais qu'on prenne deux exemples. Celui de votre série, Hard, qu'on peut encore trouver sur Canal, et puis peut-être celui ensuite de la série Soprano. Est-ce que vous pouvez, dans les deux cas, nous expliquer ce qu'est cette question et pourquoi elle reste en suspens, c'est-à-dire sans réponse?
Pour Hard, quand on m'a proposé d'écrire sur cette série, on m'a demandé une comédie dans le milieu du porno. C'est ce qu'on appelle le sujet. Il n'y a pas de question. Et le sujet, c'est pas une idée, c'est juste un sujet. Ouais. Après, il faut essayer de trouver un protagoniste dans ce milieu, dans cette arène. Donc, moi, j'ai proposé une femme qui rentre dans ce milieu, qui n'y connaît rien, comme moi à l'époque, et qui va le découvrir et est obligée de mettre les mains dedans. Ouais. Et ça reste pas encore une idée. Encore une idée, parce qu'il faut une problématique. Le pourquoi est-ce que je veux raconter cette histoire ? Pourquoi moi, je veux raconter l'histoire d'une fille qui découvre le monde du porno ? Et donc là, ça devient la quête du thème. Donc c'est très long de trouver le bon thème. Parfois, on met 6 ans pour le trouver. J'aurais dû faire philo plus longtemps qu'après la terminale. Mais donc, c'est très compliqué. Donc, dans Hard, la question, c'est jusqu'où aller par amour ou comment vivre équilibré, heureux, entre son désir profond, celui qu'on ne connaît pas vraiment, et le moi social, c'est-à-dire continuer à avoir une bonne école pour les enfants, continuer à faire des verrines avec ses copines à Saint-Germain-en-Laye, ça ne va pas ensemble. Ouais. Donc, comment cette fille peut trouver son équilibre ? Surtout quand après, elle tombe amoureuse d'un hardeur.
La poutre.
Roy Lapoutre.
Voilà, c'est ça, Roy
Lapoutre. Et donc, est-ce qu'on est capable de dépasser son éducation, ce qu'on croit être, son éducation, ses convictions, ou est-ce qu'on se laisse aller à une forme de désir qu'on ne connaît pas en soi ?
Mais pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de réponse, finalement ? Moi, je l'ai vu, cette série, j'ai adoré, ça m'avait fait beaucoup rire. Je suis d'accord avec vous, on pourrait dire ça, mais il pourrait y avoir une réponse, ce serait quand même une bonne série.
Oui, non, mais certaines séries donnent des réponses, mais je pense qu'une série qui dure et celles qui sont les plus fortes, comme par exemple Les Sopranos, il n'y a pas de réponse possible. Et je pense que quand on questionne le désir, il n'y a pas vraiment de réponse. Et ce qu'elle fait d'ailleurs, elle est en charge de faire des films porno, et elle essaye de trouver le moyen de faire des films porno qui vont plaire aux femmes. Donc elle questionne le désir. Elle va voir des femmes, elle leur dit c'est quoi le désir ? Est-ce que c'est fantasmer ? Est-ce que c'est agir ? Est-ce que c'est regarder ? Et donc, il n'y a pas de bonne réponse non plus. Et pour elle, cette question, quand elle gagne quelque chose, par exemple, quand elle gagne un Roy Lapoutre, elle gagne quelqu'un qu'elle aime, elle perd autre chose. Donc, c'est cet équilibre-là.
Et... Prenons l'exemple de Soprano maintenant, pour bien comprendre cette thématique.
Soprano, son problème, son conflit, c'est comment être un bon chef de la mafia et un bon père en même temps. En fait, il est comme Hamlet, il est un peu trahi par un oncle et par sa mère qui agissent contre lui. Et il doit un peu choisir entre la famille, et la mafia, et la famille, ses enfants. Qu'est-ce qu'on choisit ? Est-ce qu'on agit mieux pour la mafia ? Est-ce qu'on agit mieux pour ses enfants ? C'est contradictoire, c'est pas possible. Donc toute sa vie, et pendant 7 saisons, il va essayer de faire les deux en même temps. Et il n'y arrive pas. Il est en conflit, il est tiraillé et il le vit mal à tel point qu'il va faire une psychanalyse. Qui est déjà aussi qui est une honte pour un chef de la mafia, mais qui est un peu l'allégorie aussi de ce que c'est qu'une série. On commence un travail, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on va le finir. Comme la vie, on commence sa vie, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. C'est pareil, ça n'a aucun intérêt de savoir quand. Ce qui compte, c'est le parcours, c'est le chemin.
C'est pour ça que c'est une sorte de quête philosophique.
Voilà. Et lui, il fait une psychanalyse, et il essaye de travailler sur lui, mais il n'y arrivera jamais. Et en fait, à la fin, la série ne finit pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de bonne réponse. Elle se termine, parce qu'il faut bien arrêter au bout de 6 saisons. Et comme sa psychanalyse, il l'arrête, mais il ne l'a pas fini. Il l'arrête parce que la seule réponse à sa question, c'est qu'il n'y en a pas. Et donc, il accepte de laisser ses enfants agir sans lui, de partir de cette cellule de la mafia, etc., de faire leur vie. Donc sa réponse est l'acceptation qu'il n'y arrivera pas.
Donc c'est exactement ce qui arrive à la fin d'une psychanalyse freudienne ou lacanienne, quand on n'a rien réglé, mais qu'on va mieux quand même. Finalement, on accepte qu'il n'y aura pas vraiment de levée miraculeuse des symptômes. Et de cette acceptation naît quand même une forme d'apaisement et presque de délivrance. On va écouter un extrait des Sopranos.
What the fuck could you possibly have?
Incredible luck.
You're telling me, you miserable fuck.
Better check.
Don't rush me, sunshine. You're rushing me all fucking night.
Yeah, he didn't study this hard in school.
John, please, the bet's not to you.
Good. Dealer controls the game.
Thank you.
Do you fucking mind? Jesus, do you ever shut the fuck up and blow that fucking smoke somewhere else? What the fuck are you doing?
Sill, take it easy.
I'm losing my balls over here. This fucking moron's playing Hazel. Get the fuck out of here.
Vous voyez sourire en écoutant Les Sopranos ?
Bah parce que ça, j'adore cette série. Et ce qui est génial donc, dans la fin, c'est qu'il n'y a pas de scène de fin. Ce n'est pas la mort de Tony Soprano, ce n'est pas des au revoir avec ses enfants, je sais pas quoi. C'est juste, il va dans un bar, il y a un tueur qui va dans les toilettes, mais bon, on ne sait pas qui c'est, etc. Et cut, ça s'arrête. David Chase a choisi d'arrêter en plein milieu, là où on s'y attend pas, il n'y a pas de raison d'arrêter, c'est juste un moment, faut terminer.
Et ça nous dit quoi, ça, de l'existence? Parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui ont écrit sur les séries en disant qu'elles nous rendaient meilleures, qu'il y avait comme une fonction éthique des séries. Qu'est-ce que ça dit comme ça, cette espèce de cut, alors que c'est inachevé?
Ce que ça dit de nous, les séries, c'est que... on est en conflit permanent. En fait, pour essayer de nous aider à nous identifier aux personnages, c'est beaucoup plus intéressant de nous dire que le mal, l'antagoniste, est en nous, plutôt qu'un méchant qu'on doit combattre. On n'est pas des innocents, on n'est pas des victimes, on ne combat pas des gros méchants. Par contre, on peut réfléchir, quand c'est ce qu'on appelle une série qui est caractère-driven, on réfléchit à ce qui est en nous.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire que la dramaturgie, le moteur de cette dramaturgie, vient du conflit qui est dans le personnage.
Ah oui, d'accord. Character driver, ok.
Voilà. Par exemple, c'est le moteur du conflit. Ouais. C'est qui va faire qu'on raconte beaucoup d'histoires autour de ça. C'est que le problème est dans le personnage, dans
d'accord.
le protagoniste.
Et alors, quels sont, on va faire un panorama général des types de séries, parce que vous avez l'air de dire qu'il y a character driver, donc le personnage au plan individuel. J'imagine qu'il y a d'autres catégories. Dressez-nous un portrait général de cette typologie, et après, on va entrer dans le détail.
Alors, la typologie, c'est que c'est donc un personnage est clivé en deux. Donc, par exemple, ouais. Tony Soprano, il est clivé entre chef de la mafia, chef de la famille. Mad Men, Don Draper, il est deux, il est même deux identités. Il est d'un côté un chef, un créatif de publicité dans les années 60 qui réussit à New York. Et de l'autre côté, il est Dick Whitman, un mec qui est né d'une prostituée, qui a un désir qu'il ne comprend même pas lui-même, profond en lui, qui trompe sa femme, qui cherche la subversion.
Donc ça, c'est un type de série où finalement la dramaturgie se situe au sein de l'individu.
Voilà.
Et c'est quoi les autres types?
Alors, il y a arena-driven.
Arena,
donc
ouais.
là, le problème n'est pas l'individu, le problème
est la société. Ouais.
Voilà, la société, la communauté, un endroit en particulier, comme par exemple Game of Thrones. Ouais. C'est un champ de bataille. On s'intéresse à tous les points de vue. On ne se dit pas, il y a sept tribus et puis les autres, c'est les méchants. C'est chacun a ses raisons de se battre. Mmh. Et on essaye de raconter. C'est quand même, c'est presque une vision politique. C'est que si on se bat entre nous, on va tous crever. Quoi.
Ouais.
On va
revenir sur chacun des points, mais c'est juste pour avoir le panorama global. Et après, il y a une autre catégorie ou pas?
Oui, le catalogue driven, qui est...
Donc c'est très scientifique, vous ne pouvez pas mélanger les trois?
Jamais.
Ah bon? D'accord.
Non, surtout pas. Non, et donc le catalogue driven, le problème, c'est l'humanité. Donc là, c'est celui qui se rapproche le plus de la philosophie.
Oui.
On vit une expérience un peu de philosophique dans la série. C'est par exemple The Leftovers, où on supprime 2% de l'humanité, comme ça, sans raison.
Ah oui.
On voit comment...
c'est une question métaphysique pure.
Comment l'homme va se reconstruire avec ça, comment va passer cette épreuve, comment il va vivre ce deuil, comment il va se reconstruire. Donc c'est confronter l'humanité à un mal.
D'accord. Voilà. Merci beaucoup Cathy Vernet, on a compris cette typologie en trois parties. On va revenir à la première partie, le caractère driven, quand il y a un conflit au sein de l'individu et que ça pose une question philosophique. Et on va prendre un extrait de Mad Men et on va voir comment vous nous l'interprétez.
Alors Peggy, dites-nous tout. Est-ce que vous aussi, vous avez de quoi vous réchauffer en ces temps de guerre froide?
Je vous demande pardon.
Je veux savoir si vous avez quelqu'un. Est-ce que vous êtes déjà en main ou vous faites les magasins?
Elle fait les magasins. Et comme beaucoup d'entre nous, elle n'est pas emballée par la marchandise.
Moi, je peux vous proposer un bon 42.
C'est pas sa taille de costard. Elle rougit, la petite.
Non, c'est pas vrai.
Je ne devrais peut-être pas le dire, mais vous faites l'objet de plusieurs paris. Il y a pas mal d'argent en jeu.
Je préférais qu'on me le donne.
Tiens, on n'avait pas pensé à cette possibilité. L'acheter.
Il faut qu'on reprenne le boulot.
Je vais régler l'addition.
Merci, les garçons, c'était très bon. Oui, délicieux.
Vous devriez prendre votre après-midi. On pourrait aller au zoo voir ce que font les bêtes sauvages.
Alors, Cathy Vernet, la thématique de Mad Men, donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi?
C'est le désir, en fait. C'est le personnage est clivé entre son désir profond et le moi social. Et en fait, le créateur de Mad Men, il a commencé à l'écrire. Donc s'est demandé, mais en fait, pourquoi je suis pas heureux avec tout ce succès, tout ce que je suis? Pourquoi ça ne me rend pas heureux? Donc il a questionné le désir. Et voilà, il a questionné le désir en disant que le bonheur vient de la satisfaction d'un désir. Donc il a choisi la pub, qui est quand même l'arène parfaite pour parler de ça, en se disant, voilà, d'où vient le désir, en fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on choisit, ouais, ou est-ce que c'est quelque chose qu'un tiers nous dicte, la société, la pub ou autre chose?
Alors, on va faire un petit jeu, je vous interromps parce que j'ai envie de vous écouter, mais aussi qu'on comprenne bien l'enjeu. Puisque moi, à la base, je suis prof de philo. Et il se trouve que les élèves matent plus de séries qu'écoutent mes cours. Donc, nous, ce qu'on aurait dit en tant que prof de philo, c'est que voilà, il y a deux façons de penser le désir. Traditionnellement, soit le désir est manque, hein. Je manque de quelque chose, c'est pour ça que je le désire. Donc, je suis en manque, j'imagine, je fantasme, je rêve, et en fait, j'ai un peu de souffrance parce que ce manque est désagréable. Ça, c'est la conception classique du désir. Et puis après, il y a des gens qui s'opposent à ça, comme Spinoza ou Deleuze, qui vont dire « mais non ». Avec une très célèbre phrase de Deleuze, le désir ne manque de rien et surtout pas de son objet. Ça veut dire au fond, quand je désire, même si l'objet de mon désir n'est pas là, je suis rempli de vie, rempli d'intensité d'existence, rempli d'une sorte d'électricité de vie. Et donc la problématique philosophique, c'est le désir est-il manque ou plénitude? Est-ce que vous pensez que Mad Men pose cette question aussi bien que moi?
Oui.
Ouais, j'ai bien fait de me venir ce matin.
Il la pose, en fait, c'est un chef-d'œuvre, Mad Men. Ouais. Il la pose dans toutes les séquences, dans tous les épisodes, bien sûr. Il y a une liberté de la façon de poser ces questions. Chaque personnage, même, a un équilibre différent entre ce moi social, ouais, et ce désir assouvi ou pas assouvi. Si on prend la femme d'Anne Draper, qui est Betty Draper, elle s'empêche de désirer. Elle n'est que dans le moi social. Sterling, c'est comme un enfant pervers, polymorphe. Il désire et son moi social est complètement relié. Il s'en fout. Ouais. Ce qu'il veut, il le fait. Il est riche et il ne s'embarrasse pas. Donc chaque personnage est un équilibre différent de ces deux... Voilà, donc ça, c'est quand même assez génial. Et lui, toute sa problématique, c'est est-ce que le désir profond, le moi profond, peut s'accorder avec le moi social? C'est-à-dire, est-ce que l'amour, finalement, pourrait réunir ça? Et à travers Don Draper, la réponse, c'est une utopie. C'est-à-dire, c'est le bon lieu pour ça, mais c'est aussi le non-lieu.
Bien sûr, oui.
Et donc, la réponse est non, il n'y arrive pas. Il ne peut pas faire les deux. Et c'était... Voilà.
Merci beaucoup Cathy Vernier, on comprend bien que pourquoi les parents ont tort de s'énerver et leur ado est en train de philosopher alors qu'il regarde une série. On va écouter Kim Wilde et vous comprendrez bien sûr pourquoi j'ai choisi ce morceau. Thank you. C'était Kim Wilde, Cambodia.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Cathy Vernet, auteure, réalisatrice, scénariste de séries. Nous essayons, grâce à vos lumières, Cathy, de comprendre la mécanique d'une série, comment ça marche une série, quand ça marche, et surtout quelle est la différence entre la dramaturgie d'une série et celle d'un film et celle d'un long. J'ai choisi ce morceau de Kim Wilde parce que j'ai trouvé ça très très fort dans votre adaptation de Vernon Subutex de Virginie Despentes, qu'on peut voir sur Canal+, l'usage que vous faites de ce morceau. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qu'il fait là ?
Alors, c'est le premier morceau que Vernon lance au moment où il est chez Kiko, qui est un espèce de trader cocaïnomane qui l'héberge pendant un temps. Il a la pression et pour rester plus longtemps chez lui, il doit mixer, il doit, pendant une soirée, et faire danser tout le monde. Ouais. Et dans le roman, c'est pas...
De Virginie Despentes, donc.
De Virginie Despentes. C'est pas dit quel morceau il met en premier, ouais. Mais c'est un morceau qui est surprenant, décalé, qui fait danser les filles, qui n'est pas ce qu'on attend de tout DJ qui va commencer à mixer, nostalgique, voilà. Donc c'était compliqué de trouver le bon morceau. J'ai mis assez longtemps à trouver. Je crois qu'on l'a trouvé quelques jours avant le tournage. Ouais. Et moi, je trouve que ce morceau remplit toutes ces... Voilà, toutes ces contraintes.
Ouais, moi ces je connaissais pas tout ça, mais c'est vrai que quand on l'écoute, ça marche bien. Ouais. Mais du coup, on est d'accord, il est pas dans le roman.
Non. Voilà. Il n'est pas cité dans le roman.
Du coup, ça me mène à une autre question sur l'adaptation. Comment, donc, c'est différent d'écrire une série originale ou d'adapter en série ce qui était d'abord le roman à succès de Virginie Despentes. Donc, quelle a été, dans ce cas, votre méthode d'adaptation ?
En fait, déjà, ça a été un pari, hein, ça a été un défi, parce que c'est pas facile d'adapter un best-seller. Et c'est pas facile de donner une vision de ce qu'est un Vernon Subutex. Tout le monde a un Vernon en lui,
surtout
à côté de lui.
Surtout qu'il a été joué par Romain Duris, voilà. Qui était un peu étrange.
Oh, moi, je l'ai trouvé parfait.
Oui, moi aussi, mais c'est quand même... On n'imagine pas comme ça quand on le lit.
Non, mais de toute façon, personne n'imagine le même Vernon. On a tous on connaît tous un Vernon et c'était pas Romain Duris.
Voilà. Oui, c'est vrai.
Donc, l'adaptation a été difficile parce que le propre de Vernon, c'est qu'il c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment d'ambition, qui n'a pas vraiment d'enjeu. C'est quelqu'un qui est à la rue et qui est obligé de trouver un toit pour pas dormir dehors et qui est accroché et qui est ancré dans sa liberté. Et donc, on ne pouvait pas lui donner tout d'un coup un enjeu qui serait contradictoire avec ce qu'il est.
Bien sûr.
Mais en même temps, dans une série. C'est donc pas un roman, et un roman n'est pas une série. Mmh. On ne peut pas être chronique et laisser la balade d'un mec qui, comme ça, qui va de toit en toit, de canapé en canapé, sans avoir ce qu'on appelle un statement, c'est-à-dire un enjeu fort et presque existentiel qui le fait juste avancer, passer d'une étape à une autre. Et donc ça, il fallait un peu l'inventer sans trahir le roman. Et donc, on a cherché longtemps avec mon co-auteur Benjamin Dupas, et on s'est dit, en fait, il faut que... Les cassettes dont on parle, de Alex Beach, ses adieux, où il va révéler toute l'histoire avec le producteur, etc. Il ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et pour nous, c'est quasiment comme des cendres, en fait. C'est comme un dernier témoignage de leur pote, à qui les cassettes sont dans les mains de Vernon. Et c'est comme s'il avait des cendres qu'il voulait disperser. Et ces cassettes se perdent pendant toute la série, ce qui n'est pas du tout le cas dans le roman. Elles sont sous un lit et puis il ne sait même pas...
Mais ça, c'est une idée d'adaptation.
C'est une idée d'adaptation pour qu'il veuille, à chaque fois, il veut les récupérer. Il ne veut surtout pas perdre.
Oui, je me souviens.
C'est ce qui est l'or, ce qui est de l'or, parce que c'est les derniers mots d'Alex Beach. Donc il les cherche, il veut les retrouver, il veut les écouter, il veut trouver une caméra, mais il n'a pas d'argent. Donc trouver une caméra quand on n'a pas d'argent, c'est pas facile. Donc c'est des trucs très concrets, très très faciles à mettre en image, puisque voilà, on cherche une caméra, on veut récupérer une cassette, on veut récupérer son blouson dans lequel la cassette est cachée. C'est des trucs très concrets, mais qui sont un fil, comme une colonne vertébrale pour avancer avec lui. Et c'est un prétexte pour après pouvoir raconter ce qu'on veut raconter, c'est-à-dire cette quête du collectif, ce retour à la communauté par la musique, etc., qui est l'essence du roman et j'espère aussi de la série. Mais il fallait ce qu'on appelle un enjeu, un statement qui n'est pas le thème.
Oui, j'ai compris. Et du coup, est-ce que vous diriez de Vernon Subutex que c'est une série au sens où on a évoqué les séries précédentes, ou alors c'est plutôt ce qu'on appelle une mini-série avec dans ce cas-là un enjeu philosophique moindre ?
C'est une mini-série, c'est clairement une mini-série. Donc, Si, il y a, il y a la question de quel coût a la liberté. Enfin, oui. Jusqu'où on va, à quoi on est prêt à renoncer pour sa liberté. Donc c'est quand même une question philosophique. Enfin, c'est vous qui allez me dire si c'est une question philosophique.
Mais oui, je valide.
mais c'est vrai que c'est pas... ce débat philosophique qui est déclenché par le thème, donc, qui est propre à la série, on n'en a pas débattu pendant 5 saisons, puisque c'est une mini-série. Mais c'est vraiment important. C'est vraiment la différence entre la série et le film. C'est cette question à laquelle on va explorer toutes les réponses. On va mettre le personnage en conflit avec chacune des réponses. On va le voir galérer, se tromper d'un côté et d'un autre, comme un débat.
Ouais. Voilà. Vrai que la série offre comme ça une sorte de vision kaléidoscopique ou multifacette ou multiperspective, peut-être davantage qu'un film.
Ouais. On pourrait la série dire... en général, moins Verne. Ouais.
Oui, je comprends. Il y a un concept nietzschéen qui est assez intéressant, qui me vient pendant que je vous écoute pour penser à ce que c'est que l'essence d'une série, c'est le perspectivisme. Nietzsche dit il n'y a pas de vérité, il n'y a que des perspectives sur la vérité, et tout comme ça s'enfuit dans un jeu d'interprétation à l'infini, mais qui tourne autour d'un même axe. C'est peut-être ça une bonne série au fond.
En tout cas, la destinée, c'est quelque chose de fort dans la série.
C'est-à-dire
ouais, un personnage va avoir une révélation, comme par exemple, si je prends l'exemple de Breaking Bad, ouais. C'est un prof de chimie qui est un loser, qui a un cancer, et qui est vraiment un pauvre gars. Et il a le moyen, parce que comme il est chimiste, d'inventer, de créer de la meth, qui commence à vendre à des gros caïds. Voilà, et donc il se met dans une situation problématique, puisque les gens pensent que c'est un infiltré, il n'a pas la gueule d'un caïd, que c'est un flic et tout. Bon, bref, à la fin du pilote, donc très tôt, il se retrouve face à des tueurs qui viennent pour prendre la meth, etc. Et il se retrouve avec un flingue à regarder des mecs dans les yeux et à les tuer de sang-froid. Alors que c'est un pauvre prof de chimie qui n'a jamais rien fait. Donc il a cette révélation qui est un peu
de sa destinée.
Il est capable de tuer de sang-froid. En fait, il a une dark side en lui. Et comment vivre avec ça? Là, c'est le thème.
Ça, c'est une bonne question. On l'écoute.
On ne veut pas de ton argent, Walt. Je croyais que Flynn avait été clair.
Il l'a été. Et je n'ai rien à vous donner, d'ailleurs. J'ai dépensé tout ce que j'avais en trajet. Toutes ces choses que j'ai faites. Il faut que tu comprennes.
Je dois t'entendre dire encore une misérable fois que tu as fait tout ça pour notre famille.
Je l'ai fait pour moi.
Excellent, excellent extrait. Parce que c'est exactement le résumé de ce qu'on essaye de comprendre ensemble. Ouais. Donc, à la fin, c'est sa femme qui lui a dit, mais est-ce que tu as fait ça? Mais dis pas que tu as fait ça pour nous. Il dit, non, j'ai fait ça pour moi. Donc, c'est comme on parlait de Soprano tout à l'heure, c'est la fin de la série, c'est l'acceptation. Il dit, non, je ne suis pas tiraillé entre mon dark side et la famille. En fait, tout ça, c'est moi. Donc, c'est l'acceptation de sa destinée.
C'est puissant et c'est pour ça que ça ouvre à plein de réflexions autour de cet axe. Ça me rappelle, vous savez, à tous ces hommes qui bossent comme des fous, qui prennent pas de vacances, qui rentrent à 22h et ils disent « je fais ça pour ma famille ». Alors qu'en fait, ils font ça pour leur ego, pour avoir leur reconnaissance, parce qu'ils ont une revanche à prendre sur la cour de l'école. C'est pas pour leur famille, en fait.
Bon, lui, c'est pas pour avoir une reconnaissance, c'est juste... Il avait cette dark side en lui et c'était sa destinée. Et puis, il met ça sous le compte du cancer et de « je fais tout ça pour nourrir ma famille », mais non.
Donc là, Breaking Bad, on est dans quel cas par rapport à la typologie en trois temps?
Ah bah ça, c'est character driven. On est carrément chez un personnage qui est clivé et qui est deux, quoi.
Ouais. Passons maintenant à un très bon exemple du deuxième cas que vous avez appelé Arena Driven, c'est-à-dire un enjeu sociétal. Donc je pense évidemment à Game of Thrones, c'est peut-être un bon exemple. On va d'abord écouter un extrait et après vous allez le commenter. Alors, Cathy Vernet, ça c'était la scène de libération des insulaires.
C'est Mother of the Dragon, je crois.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comment vous l'interprétez à ce moment-là? Et pourquoi ça marche si bien?
Pourquoi ça marche si bien, Game of Thrones, c'est que c'est un champ de bataille. C'est un peu la métaphore de la politique. On essaye de montrer que soit on s'entend entre nous, soit les non-humains, les autres, ouais, là, les espèces de zombies, vont tous nous tuer. Donc c'est soit on s'entend entre nous, soit on meurt. Ouais. Donc c'est une série qui est très divertissante, qui s'autorise à tuer des héros. Ça, c'est la grosse différence avec le character driven. C'est que si on tue le héros de Breaking Bad, la série est finie. Si on tue Tony Soprano, c'est fini. Mad Men, c'est fini. Alors que dans une série d'arène, comme ça, on peut tuer l'héros. Et c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'on fait. Stark, il meurt avant la fin de la saison 1. C'est le héros de la saison 1. Et c'est pas grave. Voilà, c'est justement surprenant. Il y en aura d'autres qui mourront. Il y a des boucheries, Game of Thrones. Ils meurent tous. Pas presque tous à la fin. Mais ce qui est génial, c'est que on change de point de vue et qu'on défend pas un seul point de vue. Et que surtout, la métaphore, c'est, voilà, il faut s'entendre entre nous, entre royaumes. Ils veulent tous le trône, mais déjà, entendez-vous. Sinon, c'est les autres, ceux qui n'existent pas, enfin les zombies qui vont tuer tout le monde. Donc, je trouve que c'est
une belle
métaphore
de la philosophie politique où, au fond, c'est pas par amour ni par désir de vivre ensemble qu'on doit se mettre d'accord, mais juste pour éviter de crever.
Parle-moi de ta voix, pareille à l'eau courante, lorsque s'est ralenti le souffle des aveux. Dis-moi tes mots railleurs et cruels si tu veux, mais berce-moi de là. Mélopée enivrante de ce timbre voilé qui m'attriste et m'enchante, lorsque mon front s'égare en tes vagues cheveux. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, ô mon harmonieuse et musicale amante. Ta forme est un éclair, ton sourire est l'instant. Lorsque l'appel t'implore, ô mon désir, ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Tu frôles sans étreindre, ainsi que la chimère, vers qui tendent toujours les vœux inapaisés. Rien ne vaut ce tourment, ni cette extase amère, de tes rares baisers. Et moi j'écouterai ta voix et son doux chant. Je ne comprendrai plus j'écouterai cherchant. Sinon l'entière oubli, du moins la somnolence, car si tu t'arrêtais, ne fût-ce qu'un moment, j'entendrai, au profond du silence, quelque chose d'affreux qui pleure horriblement. Exprime tes espoirs, tes regrets et tes vœux, mais berce-moi de là, mélopée enivrante. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir. Ta forme est un éclair qui laisse les bras vides. Ton sourire est l'instant que l'on ne peut saisir. Tu fuis lorsque l'appel de mes lèvres avides t'implore, ô mon désir, t'implore, ô mon désir.
C'était le très joli Mélopée de Ezechiel Paillès.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours avec Cathy Vernet, auteure et réalisatrice de séries, notamment Vernon Subutex, Hard, quelques épisodes de Fais pas ci, fais pas ça notamment. Et nous essayons de décortiquer, de comprendre la mécanique des séries. Passons maintenant à The Crown, parce que moi j'aime bien cette série. Je trouve ça très fascinant de voir qu'on peut être tout là-haut au pouvoir et finalement être quelqu'un qui ressemble aux autres. Est-ce que c'est ça la charge philosophique de The Crown ?
En fait, là où il a été très fort, le créateur, c'est que le sujet, c'était la reine d'Angleterre. Mais ça, c'est, on regarde ça comme un documentaire. On est très extérieur. Personne ne peut s'identifier à une reine d'Angleterre. Lui, ce qu'il a fait de très bien, c'est, encore une fois, l'approche, le thème, l'angle. Et sa question, c'est voilà, comment vivre la personne privée et la personne publique.
Ouais.
Comment concilier d'être une sœur et une reine, ce qui est quasiment impossible. Ouais. Parce qu'en plus, elle est à chaque fois en conflit avec sa propre sœur, qui est avec le... Je ne sais pas si vous vous souvenez, avec l'oncle, bon bref. Du coup, l'auteur a incarné dans la reine le pire conflit de la personne privée avec la personne publique, puisque de sa capacité à le régler, à le supporter, dépend la vie d'un pays, quoi, en gros.
Ouais.
L'entente, la paix d'un pays. Donc voilà, moi je trouve que cette série est absolument géniale parce qu'on arrive à s'identifier à une reine,
c'est
alors
ça,
qu'on n'est pas des rois.
Bel exploit, on va écouter un extrait.
I hug who I love. Particularly when they are affected by the selfishness of others and need cheering up.
Who are you referring to?
Camilla.
Why would I care about her?
Because I care about her! Morning, noon, and night I care about her! And you hurt her. And if you hurt her, you hurt me.
La première scène de cette série,
ouais,
est absolument géniale, parce qu'en 10 secondes, il raconte tout ça.
C'est dingue. Hein.
C'est le roi, il vomit, et il marche vers le balcon, et là, il est devant sa foule. Donc en 10 secondes, il raconte le thème, ce qui est quand même une prouesse.
Ouais, ça me fait penser, je sais pas pourquoi, à cette phrase de Montaigne, qui est une des premières phrases que j'ai découvertes en philosophie, et une des premières que j'ai toujours apprises à mes enfants. On a beau être assis sur le plus beau trône du monde, on n'en reste pas moins assis sur son cul.
Exactement.
C'est ça, non? Alors, Cathy Vernet, est-ce que vous pensez que les séries peuvent nous rendre vraiment meilleurs et qu'elles peuvent changer le monde?
J'aimerais bien pouvoir dire qu'elles changent le monde, mais non, je pense pas que les séries changent le monde. Peut-être qu'elles nous mettent en lumière et qu'elles nous éveillent. Mais de là à changer le monde, je ne pense pas. Molière n'a pas réussi à changer le monde. Beaucoup d'auteurs ont fait ça et ils n'ont pas réussi. Donc ce n'est pas les séries qui vont.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette idée très à la mode chez certains philosophes américains qui aurait une édification morale produite par les séries que le cinéma n'apporte pas?
Ben, en questionnant, parce que c'est l'art de la question et du doute, peut-être que ça nous pousse à réfléchir et à nous engager, à nous mobiliser aussi. Si on prend par exemple Years and Years, qui est une série d'anticipation, où le tableau est assez déprimant en termes de montée du populisme,
ouais,
crise des migrants, chaos financier, etc. Donc on pourrait se dire que c'est complètement déprimant. Pourtant, l'avenir qu'imagine l'auteur nous plonge pas dans le désespoir grâce à la grand-mère qui dit quand même est-ce que vous avez protesté quand on a changé les caissières contre des caisses automatiques? Est-ce que vous avez,
ah oui,
est-ce que vous avez fait quelque chose? Est-ce que vous y êtes allé? Est-ce que vous avez dit non, moi je vais plus aller dans ce magasin, je vais plus non. Donc en fait, elle nous pousse à nous mobiliser. Comme c'est une série d'anticipation, dans quelques années,
oui,
c'est pas mal, parce qu'on voit, et ça, il y a beaucoup de séries d'anticipation qui sont un peu, qui nous préviennent, et qui peut-être
nous font réagir,
nous font réfléchir. Mais donc, quand ça, et nous ouvre sur le monde aussi, puisque maintenant, il y a des séries dans le monde entier.
Oui, c'est vrai.
Mais de là, nous, changer le monde, je sais pas.
Et bien justement, on va écouter la scène finale de Years and Years.
You're wrong. You know, you're absolutely wrong.
In what way?
Everything you've stored. All the downloads. Those bits of me that you've copied onto water. You've got no idea what they really are. I'm not a piece of code. I'm not information. All these memories. They're not just facts. There's so much more than that. There. My family. My lover. They're my mum. And my brother. Who died years ago. Their love. That's what I'm becoming.
Scène finale de Years and Years, absolument délirante, la prise de conscience, la révélation, c'est tout ce que vous racontiez, non ?
Ça donne à penser, en tout cas.
Et à penser en même temps qu'à vivre. C'est peut-être ça, la véritable pensée, d'ailleurs. C'est ça que les parents de notre ado ne comprennent pas. C'est que pour vraiment penser, il faut avoir des affects, en fait. Il faut penser avec son cœur, avec son corps, avec son âme, pas simplement avec ses petits neurones.
Mais c'est vrai que le débat d'une série est philosophique, mais il doit aussi être physique. L'auteur, hein, quand il pose la question, c'est pas théorique, ça doit être un truc qui vient de ses tripes, ouais. Pour qu'il puisse écrire dessus pendant 3 ans. C'est que c'est vraiment, il y a une dimension existentielle pour lui, physique, urgente, de se poser la question. Et en ça, il est presque comme un acteur.
Eh bien, justement, Cathy Vernet, vous m'apportez une très belle transition. Je voudrais qu'on revienne un peu sur votre parcours avant de faire des séries, d'être auteur, de les réaliser, de les scénariser. Vous avez commencé comme comédienne, notamment avec Eric Ruff. Et puis après, vous avez participé à cette troupe du Tejestan, très subversive, très révolutionnaire. Expliquez-nous un peu ces deux éléments de votre parcours et en quoi ça conduit peut-être à l'art de la série.
Ah, c'est vrai, ça conduit à l'art de la série. Eric Ruff, c'était mon professeur quand j'étais à l'école, et il a décidé de garder plein d'élèves pour monter.
Préciser qui est Eric Ruff.
Eric Ruff, qui est donc le directeur, le président de la Comédie Française.
Ouais.
Je crois qu'on dit directeur.
Maintenant, ouais.
Maintenant. Et qui est acteur aussi, metteur en scène, et qui avait cette troupe quand on était une vingtaine d'élèves, ouais. Entre 20 et 25 ans, et c'était un peu un guide, plus qu'un metteur en scène.
Ouais.
Et il avait décidé de mettre toutes les subventions qu'on avait, parce qu'il était déjà assez reconnu, donc on avait pas mal de théâtres qui nous suivaient. Il mettait de mettre toutes les subventions dans les salaires, et tout le reste, il fallait qu'on le fasse nous-mêmes.
Ah oui.
C'est-à-dire les décors, les costumes, la musique et le texte. Ce qui
c'est
était un esprit de troupe génial.
Ouais.
Et donc, on allait chacun choisir des ateliers. Et bon, moi, j'ai été plus attirée par l'écriture que par le décor. Et c'est grâce à lui que j'ai commencé à écrire, de tenter comme un laboratoire. Il n'y avait rien à obtenir. On essayait sur le plateau avec des acteurs. On recorrigeait. Et c'était un va-et-vient entre le jeu et le texte. Et surtout, qu'est-ce qu'on a envie de dire ? Pourquoi on prend la parole ? Pourquoi on monte sur une scène pour dire quoi ?
Ouais.
Et c'est propre aussi après des Tejestan qui...
Alors Tejestan, je décrivais pour nos auditeurs ce que c'est.
C'est des Belges,
ouais.
Fous furieux. Donc je les adore, mais la première fois que je les ai vus, je me suis dit, mais on a le droit de faire ça au théâtre.
Ils faisaient quoi, par exemple ?
Il n'y a pas de quatrième mur. Bon, ça, maintenant, ça paraît complètement évident. Il y a beaucoup de pièces comme ça, mais eux, ils ont commencé il y a très longtemps. Je ne dis pas que c'est les premiers.
Il n'y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire ?
Il n'y a pas de quatrième mur, c'est-à-dire qu'on s'adresse au public.
Ah oui, oui.
Voilà, on ne joue pas entre nous. On n'est pas dans une psychologie du personnage.
Ouais.
On n'est pas dans un truc de là, le personnage, il pleure parce qu'il a perdu sa mère. Pas du tout. On est ouvert avec le public, on regarde le public. On lui parle vraiment. Et c'est comme si
Mais on lui montre aussi qu'on est en train de jouer,
Voilà, exactement. Et c'est comme si on disait au public, là, l'auteur, il dit ça. Et on le regarde et on le questionne presque.
Vous le faites intervenir dans la réflexion sur même comment jouer, par exemple.
Il répond pas.
Oui, mais avec les yeux, avec l'attitude.
Voilà, avec l'attitude, c'est... Moi, en tout cas, je suis sur scène et je prends la phrase de l'auteur et je questionne. Et parce que je choisis cet auteur, parce que j'ai choisi cette pièce, c'est la raison pour laquelle je monte sur scène, pour questionner ça. Donc, c'est déjà pas très loin... De prendre la parole pour écrire une série.
Bien sûr, ouais. c'est une bonne école.
Et c'était une super école, et c'était incroyable parce qu'on ne répétait pas. Du coup, il n'y avait pas de psychologie, il n'y avait pas à pleurer, à se mettre à droite, à gauche, à jardin, à cours. C'était pas ça. L'essentiel, c'était pourquoi je suis debout sur une scène et pourquoi je parle au public, pourquoi je prends ce texte.
Et peut-être à partir du moment où je sais pourquoi, je peux ne pas être prêt, je peux improviser, c'est de la présence, c'est ça ?
C'est de la présence, mais on ne rajoutait pas de texte. Hein. C'était toujours
il n'y avait pas d'improvisation.
Non, c'était le texte tel qu'il est, mais c'est la façon de le dire de l'adresser au public pouvait changer d'un soir à l'autre en fonction de là où on était, de sa réflexion, de la phrase qu'on est en train de donner, quoi, de ouais. questionner. Donc c'était de l'impro de jeu, mais pas de texte.
Ah, c'est intéressant. Ouais. Ça, incroyable. C'est le Tejestan.
Tejestan. Et après, avec, j'ai monté une compagnie qui s'appelle L'Avantage du Doute, parce qu'on avait joué avec eux, et ils ont continué, ils sont absolument extraordinaires, ils viennent de jouer à la Bastille, là. Ouais. Ils ont continué dans ce même, dans cette même approche,
cette même veine,
développée à leur façon, et qui se sont éloignés de leur maître, bien sûr.
L'avantage du doute, vous comprenez que ça plaît aux philosophes, le bénéfice du doute. Je vous propose de boucler cette boucle que vous nous avez invité à parcourir en revenant à cette série Hard, la première que vous avez réalisée pour Canal, qu'on peut encore voir bien sûr sur Canal+. Écoutons un extrait et on va voir un petit peu quel a été votre chemin.
Capucine, tu sais, tu peux tout nous confier. Nous, on est là pour exécuter tes désirs, c'est sans te juger. Allez, Capucine. Tu sais ce qu'on va faire ? On va commencer par le lieu. Hein ? Tu préfères quelque chose à l'extérieur ? Tu préfères être en intérieur ?
Ah bah plutôt à l'intérieur. Chez moi, c'est possible ?
Mais oui, bien sûr, c'est une bonne idée, comme ça sera plus cosy pour une première fois.
Voilà, le décor c'est fait, Capucine. On va pouvoir passer au partenaire. Vous avez pensé à un physique particulier ? Vous avez pensé à un costume ? Bon ben, l'important c'est qu'il soit viril, hein. Un peu poussiéreux.
C'est très bien, déjà. Un rameneur, par exemple.
Ça me rappelle des bons souvenirs.
Oui, des bons souvenirs. Bah, en fait,
déjà, contextualiser un petit peu qu'on comprenne.
Oui, l'héroïne, donc Sophie, a mis les mains dans l'industrie du porno puisqu'elle a perdu son mari et qu'elle veut garder le même niveau de vie pour ses enfants. Mais elle ne veut pas continuer à faire des films pourris que seuls certains mecs regardent et jamais les femmes. Donc elle essaye de questionner les femmes autour d'elle dans son Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce que les femmes aimeraient voir dans un film porno pour qu'elle puisse...
C'est l'essence du porno féminin, en fait.
Non, mais en fait, il n'y en a pas. Parce que les filles, toutes les copines lui disent « Mais moi, j'ai rien envie de voir, je m'en fous du porno. Moi, je préfère fantasmer, imaginer, c'est ça qui nourrit mon désir, ça qui m'excite, plutôt que de regarder. » Du coup, elle revient en disant « Bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je ne peux pas faire de porno, il n'y a rien qui plaît aux femmes. » Du coup, elle se dit « Mais je vais monter une sorte d'agence qui réalise les fantasmes des femmes. » C'est pas du proxénétisme parce que tout ça est filmé. Du coup, ils ont un contrat. Après, ils peuvent regarder la cassette. J'avais réfléchi à tout ça. Bon, aujourd'hui, ça passerait plus. Hein. Mais à l'époque, pas sûr. Mais donc, elle monte cette espèce d'agence où elle demande aux femmes qu'est-ce qu'elles veulent comme fantasme. Et les hardeurs joueront
le scénario. Un peu comme les hommes-objets des Amazones grecques, quoi.
Voilà. Et joueront le scénario demandé par les clientes. Et donc là, c'est une femme qui veut un pompier, en fait. Elle ne veut pas un ramoneur. Mais
finalement.
Ça commence comme ça. Ouais. Et il y en a qui veulent des trucs beaucoup plus originaux.
Merci beaucoup, Cathy Vernet, de nous avoir accompagné ce matin sous le soleil de Platon. On a mieux compris pourquoi ça marche, une série, quand ça marche. Et en guise de remerciement, je voudrais, comme je le fais chaque matin, essayer de dégager pour nos auditeurs la philosophie de la vie qui a été la vôtre ce matin, à travers votre façon de penser la série, de penser l'adaptation, de penser aussi le théâtre de troupe. Je dirais que c'est une philosophie anti-cartésienne. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Descartes disait « l'irrésolution est le pire des maux ». Or, on a pensé à que dans une série, c'est le contraire. C'est parce qu'il y a une irrésolution, une non-résolution, que la question continue à résonner et qu'on la vit comme ça dans sa chair et dans son existence concrète. Je dirais aussi une philosophie sceptique, évidemment, puisqu'on continue à douter et on tourne autour d'une question sans jamais qu'elle soit vraiment élucidée. Je dirais encore mieux, Cathy Vernet, une philosophie aporétique. Car vous savez, l'aporie, c'est quand à la fin d'un raisonnement, il y avait deux types de dialogues platoniciens. Des dialogues qui conduisent à une réponse et d'autres qui sont les plus beaux, les plus philosophiques, les plus sublimes, qui conduisent à une aporie, c'est-à-dire qu'on a posé la question, on l'a vécu dans sa chair, on a été grandi, éclairé, ébloui par la question, même si on n'a toujours pas trouvé la réponse. Cathy Vernet, merci beaucoup. Cette émission a été préparée par Vera Lou Deride et Fabrice Rivaud, réalisée par Camille Maty, à la programmation musicale Valentine Chedebois, à la technique, merci beaucoup, Vincent Désière. Quant à moi, je vous donne rendez-vous lundi, à 9h exactement, sous le soleil de Platon, dans la caverne de France Inter.